Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous sommes à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, pour débattre autour de l'Europe. L'Europe face au défi Trump. Nous retrouvons nos invités. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, président de Hubert Védrine Conseil. Et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, son tout dernier ouvrage, Requiem pour le monde occidental, qui vient de paraître aux éditions Erol. Nous avons terminé la première partie de l'émission avec Hubert Védrine, qui, de même que Pascal Boniface, était d'accord sur la nécessité pour l'Europe de réduire sa dépendance, en particulier vis-à-vis des États-Unis. La question qui se posait, c'était comment faire et avec qui. On peut juste rappeler pour nos auditeurs que l'Europe, c'est moins de 7% de la population mondiale et moins de 22% de la richesse mondiale. Ça replace les données avec quelques chiffres.
50% des prestations sociales mondiales. Ça montre un poids aussi.
C'est dire aussi les déséquilibres et les incertitudes. Alors, réduire la dépendance, comment faire et avec qui?
Bah, tout d'abord avec
Pascal
l'Allemagne.
Boniface.
Je serais moins pessimiste qu'Hubert Védrine sur la capacité de l'Allemagne de rebondir. L'Allemagne est divisée. C'est vrai que, bon, historiquement, l'Allemagne doit sa protection depuis le blocus de Berlin aux États-Unis. Et même lorsque De Gaulle proposa à Adenauer d'aller un peu plus loin, le Congrès allemand bloquait parce que il disait non, on a besoin de la protection américaine. Après, la réunification, c'est un peu différent. On a vu quand même que l'Allemagne s'est opposée avec la France à la guerre d'Irak. En 99, Schröder s'est opposé au système de défense antimissile en disant que c'est un système inutile, voire même dangereux. Donc l'Allemagne est capable de réagir. Là, en fait, l'Allemagne est divisée. Pourquoi ? Les militaires allemands, ils sont biberonnés à l'OTAN. Pour un militaire allemand, l'armée allemande, ça ne sert pas à grand-chose. Et par contre, c'est à l'OTAN qu'il y a les grades intéressants, les champs de manœuvre intéressants, etc. Donc les militaires allemands sont complètement otanisés. Le fait de quitter l'OTAN, c'est demander à quelqu'un vraiment de sortir du cocon, etc. C'est impossible pour un militaire allemand de penser comme ça. Les milieux académiques et civils sont plus disponibles. Ils sont horrifiés de ce que dit Trump. Ils ont aussi quand même besoin d'affirmer la puissance allemande. Mais la grande crainte allemande pour l'instant, c'est de dire, attention, si on s'oppose aux États-Unis, que va-t-il se passer si le marché américain se ferme et qu'on ne peut plus vendre nos Mercedes aux États-Unis? C'est ça la grande crainte allemande. Mais sinon, les Allemands, on sent quand même un peu, justement, ils peuvent bouger, et c'est le travail le plus important que la France a à faire, c'est d'entraîner l'Allemagne avec elle. Alors, bien sûr, c'est une tâche relativement importante. Et en fait, pendant très longtemps, la France a eu peur de la puissance allemande. Maintenant, on doit l'espérer. Parce que c'est une Allemagne qui soit un peu plus puissante, qui pourra s'affranchir des règles psychologiques et politiques de la dépendance culturelle et historique à l'égard des États-Unis.
La France qui, Hubert Védrine, se retrouve particulièrement fragilisée depuis plusieurs semaines. Et il est vrai aussi que l'image de notre pays dans le monde c'est d'une certaine manière détérioré. Est-ce que tout cela donne moins de poids, finalement, au président Macron, dans tout ce chantier que vous évoquez, l'un et l'autre? On sent que, voilà, c'est un coup sur la tête.
Je vais revenir au sujet allemand dont parle Pascal, mais je veux bien dire un mot sur ce que vous dites, c'est conjoncturel, ça. Parce qu'en fait, dans à peu près toutes les sociétés mondiales aujourd'hui, les dirigeants savent qu'ils sont à la merci, dans les sociétés ultra-informées, ultra connectés, dans lesquels les gens, notamment dans les démocraties, mais même ailleurs, n'acceptent pas de confier longtemps leur sort à qui que ce soit. Et ils ont des moyens d'expression gigantesques qu'ils n'avaient pas avant. Donc même dans les pays où traditionnellement les gens ricanent quand il y a des problèmes en France, ils se sentent pas tout à fait à l'aise en fait. Ils trouvent que la situation en France est disproportionnée, caricaturale, tout ce qu'on veut, mais c'est pas comme s'il y avait des problèmes brusquement en France, dans un monde qui marcherait très bien, avec une démocratie représentative, super. C'est pas du tout ça. Donc on verra par la suite. Je voudrais revenir à la question allemande, parce que Pascal a raison de recommencer par là, en disant qu'est-ce qu'on fait, avec qui, c'est la question que vous posiez. Je pense pas être pessimiste, je pense être très expérimenté sur la question allemande. Ça veut pas dire que ça va pas bouger, mais il faut bien mesurer quand même les choses. Hein. Tu as parlé de Schröder. Si Schröder était resté chancelier, je pense que ça serait très différent. Et là-dessus, il y a un bilan qui a jamais été fait, parce qu'il y a une sorte de révérence automatique par rapport à Mme Merkel, alors qu'en réalité, la réunification, c'est grâce au fait que Gorbatchev a laissé faire et que Kohl, finalement, a adopté les bonnes positions. Et c'est grâce à Schröder qui a redonné la compétitivité à l'Allemagne. Mme Merkel a été une géniale tacticienne, mais sur le plan vision à long terme, stratégique, politique, etc., elle n'a pas apporté grand-chose, sauf la question que je citais tout à l'heure et qui est encore sans réponse. Est-ce qu'il y a des signes d'évolution? Attention à ne pas les surinterpréter. Schröder n'est plus là. D'autre part, même quand il y a des cas absolument incontestables, menaces djihadistes, islamistes ou ce qu'on veut, sur le Mali. Le gouvernement malien appelle à l'aide. Tous les gouvernements voisins africains, quoi qu'ils pensent de tout ça, appellent à l'aide. Le Conseil de sécurité, d'accord, tout de suite. Le seul pays au monde disponible pour faire ça, jusqu'à ce qu'un jour il y ait une armée de l'ONU, c'est la France, qui a gardé institutionnel, capacité militaire, etc. La France y va. Longtemps après, les Allemands font un petit quelque chose. Difficilement. Ils fournissent un hôpital de campagne. Quand il y a des militaires allemands, ils ont l'instruction d'être désarmés. Dans le cas le plus évident, incontestable, critiquable par personne. Absolument évident. Conseil de sécurité. Les évolutions sont minuscules pour le moment. Quand les ministres de la Défense des deux pays, Mme von der Leyen et Le Drian, puis après Florence Parly, ils font des listes qui sont intéressantes, qui sont sympathiques, de ce qu'on pourrait faire mieux ensemble, rien ne va très loin en fait. Même en matière de coopération industrielle, ça prend des années, c'est horriblement compliqué. La plupart des autres préfèrent acheter américain pour les raisons que tu rappelais, etc. Donc il y a peut-être des think tanks, il y a des petits groupes en Allemagne qui disent qu'il faudrait peut-être évoluer, peut-être. Mais ça reste très très fragile. Alors peut-être à nous de l'alimenter par des propositions intelligentes. Mais pour moi, ça ne va pas très loin. Et l'opinion n'est pas du tout sur cette ligne. Et l'opinion s'accroche à l'idée qu'on n'a pas besoin, en fait. On n'aura pas besoin de faire une Europe puissance, que tout ça c'est dégoûtant, c'est affreux, c'est dépassé. Mais le monde étant le chaos que l'on connaît, ça n'est pas dépassé. Alors moi, je suis pas du tout sûr que ça évolue rapidement. Ou alors, faut à un moment donné bousculer les choses. Et je voudrais citer une proposition de quelqu'un qui est assez différent, qui est plutôt sur une ligne européiste classique, qui est Giuliani, avec la Fondation Schuman. Il a proposé, à partir du traité franco-britannique de coopération en matière de défense, dit de Lancaster House, qui, Dieu merci, n'est pas lié au mécanisme européen, donc qui demeure, quelle que soit l'issue des péripéties Brexit, par rapport à ça. Il a proposé que ce soit étendu à l'Allemagne, ce traité, pour faire le début du noyau. Par rapport à ça, je trouve que c'est une idée qui demeure extrêmement intéressante et qu'à un moment donné, il faudra prendre nos responsabilités et mettre les Allemands au pied du mur. Mais à un moment donné, il faudra leur dire, vous voulez ou pas, puisque vous-même, vous craignez cette évolution. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ce qui peut bouger, ce sont les industriels. Parce qu'il y a en fait une peur commune des industriels d'être concurrencés, voire exterminés par l'industrie américaine. Donc les industriels, notamment de la défense allemand, là je parle pas des exportateurs automobiles, mais il y a des secteurs qui savent très bien, si les militaires allemands ne voient pas en dehors de l'OTAN de salut, les industriels de la défense allemand savent que s'ils ne s'allient pas avec les Français, ils seront tués en termes de concurrence par l'industrie américaine. Et donc la survie de l'industrie allemande et européenne passe quand même par des alliances européennes pour justement faire face aux défis américains. On a l'exemple malheureux qui est rappelé par l'actualité et éditoriale de Alstom et General Electric. Eh bien, il ne faudrait pas que on voit que certains pays européens continuent d'acheter des avions américains comme la Belgique récemment et non pas des avions européens. Il faut que le prochain avion de combat ne soit pas, il n'y ait pas un avion allemand d'un côté et un avion français de l'autre, mais que ce soit un avion franco-allemand voire européen si l'on veut continuer à exister en termes d'industrie. Et là, il y a peut-être effectivement des intérêts réellement communs par rapport à une volonté de tuer la concurrence de la part de l'industrie américaine.
La Russie, j'aimerais qu'on en dise quelques mots. On a bien compris que le découplage entre l'Europe et l'Amérique fait, me semble-t-il, alors peut-être c'est à débattre, de la Russie le premier bénéficiaire. Quel défi pour l'Europe ? Hubert Védrine, vous disiez précédemment que vous étiez pour une politique plus réaliste vis-à-vis de la Russie. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Je fais partie des gens qui considèrent que l'état actuel des relations entre l'Europe et la Russie est absurde et que les torts sont partagés. Je suis pas un pro-Poutine naïf, hein. Et je sais très bien quels sont les problèmes réels posés par la Russie à ses voisins historiquement. En même temps, c'est absurde qu'on ait aujourd'hui de plus mauvais rapports avec la Russie qu'on en avait avec l'Union soviétique pendant les 20 à 30 dernières années de la guerre froide, après que Kissinger notamment ait mis en place des mécanismes de gestion. Déjà, il y avait eu le téléphone rouge au moment après la crise de Cuba. Et il y avait pendant longtemps des sommets, des grandes négociations de limitation des armements, SALT, de réduction, START. Il y avait quelque chose, je parle même pas de la période Gorbatchev, c'est encore autre chose. En tout cas, ça a été géré beaucoup mieux, c'était moins pire. À une époque où l'URSS était beaucoup plus dangereuse que la Russie d'aujourd'hui, beaucoup plus menaçante. Et donc, même dans cette période, il s'est trouvé des réalistes très très intelligents pour dire « c'est quand même notre intérêt, en fait, d'avoir de moins mauvais rapports, ce qui a été construit, etc. » On n'a même pas ça aujourd'hui. Donc je trouve que l'engrenage, même si je comprends qu'on ait dû réagir à chaque étape exagérée des comportements russes, l'engrenage est stratégiquement idiot. Et en pratique, ça pousse la Russie du côté chinois, ce qui les terrorise, puisque je rappellerai que de l'Oural jusqu'au Vladivostok, il y a au maximum 20 millions d'habitants, quelque chose comme ça, même moins. C'est juste une banlieue d'une bourgade moyenne chinoise, quoi, en quantité d'habitants. Donc il y a une espèce de terreur russe, et notre politique, qui encore une fois peut être justifiée au jour le jour, surtout dans des époques et dans des sociétés où on mène la politique étrangère un peu à la remorque de l'opinion du jour, bon, ce qui est absurde, tout ça est idiot stratégiquement. Donc quand Macron dit « il faut réarmer la Russie en Europe », je trouve la formule bonne. Comment faire ? Voilà sur le plan de la Russie. Mais il faut le faire sans naïveté. Je pense, comme le pensait Brzezinski à la fin de sa vie, et comme le pense Kissinger, que c'était une idiotie d'agiter la menace de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qu'il fallait plutôt imaginer un statut de neutralité intelligent. En revanche, je comprends que les pays baltes, vu là où ils sont, vu le passé, vu les minorités russes, aient besoin d'une réassurance. Donc il faut pas, je ne suis pas noir et blanc sur le sujet. On a absolument besoin d'une autre politique russe. Mais on revient à notre question d'avant. Le « on », c'est qui ? Si c'est que nous, Français, ce serait bon, très bien qu'on le dise plus, d'ailleurs plus nettement. Si c'était nous avec les Allemands, ça aurait marché avec Schröder, ça. C'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut relancer ça ? C'est pas évident. Mais en tout cas, je suis pour aller dans cette direction, dans l'affaire russe. C'est pas le centre du monde, hein. La vraie question, c'est la question américano-chinoise, en réalité. Mais quand même, on peut pas le négliger.
Pascal Boniface.
Oui, effectivement, il faut ne pas confondre ce qu'est la société russe et ce qu'est la politique étrangère de la Russie. Il est évident que la Russie est un régime autoritaire, que la justice est contrôlée, donc il n'est pas question de créer une ode à Poutine et de chanter ses mérites, mais c'est de voir quel est notre intérêt. Est-ce que notre intérêt est de crisper la Russie par l'élargissement de l'OTAN, la mise en place d'un système de défense antimissile, etc., et de prendre des sanctions, parce que cette idée même de sanctions, d'ailleurs, on parle de sanctions internationales, non, ce sont des sanctions occidentales. Le reste du monde n'a pas sanctionné la Russie, et lorsque nous proclamons des sanctions à l'égard de la Russie, on confond le tout et la partie. Nous ne sommes pas le monde, nous sommes le monde occidental. Et donc on confond les choses, et pendant ce temps-là, Poutine va à Fortaleza le même jour, et il est accueilli très bien, pas seulement par la dictature chinoise, pour reprendre le discours dominant, mais également par Dilma Rousseff, par le Premier ministre indien et le président sud-africain. C'est vraiment la prophétie autoréalisatoire. À force de crisper la Russie, elle a un comportement effectivement autoritaire que l'on perçoit comme agressif, mais il faut voir les capacités. Le but de Poutine n'est pas de recréer l'Union soviétique, il est trop réaliste pour le savoir. Mais c'est vrai que on a voulu, et je reprends une expression d'Hubert, on avait espéré que après la fin de la guerre froide, les Russes deviennent européens. Ils sont restés russes. Ils sont restés russes et ça nous a surpris désagréablement. Et donc cette volonté occidentale d'imposer un peu les normes en dehors ne peut pas fonctionner. Et là on se retrouve pris dans la contradiction parce que l'Europe a suivi les Américains dont le commerce avec la Russie n'est que 1% de leur commerce international. Donc c'est pas très grave pour les Américains de décréter des sanctions à l'égard de la Russie. Mais nous, ce n'est pas le même cas. Et donc on suit aveuglément les Américains sur ces thèmes de sanctions, et ensuite on est prisonnier, et on a effectivement, alors que Poutine rêvait d'une bonne relation avec l'Union européenne, on a une Russie dont le comportement peut poser problème, mais on peut soit continuer comme cela, et c'est un peu le but de l'OTAN. L'OTAN a besoin, une fois encore, d'une Russie qui paraisse agressive pour justifier sa permanence et sa croissance, alors qu'on pourrait dire sortons de ce jeu et établissons une relation plus détendue et plus normale avec la Russie, parce qu'effectivement, il est quand même tout à fait ahurissant qu'on ait des relations plus presque crispées que du temps de la guerre froide, où il y avait des ententes, des sommets, et on savait parler de points communs.
Les États-Unis, Donald Trump à la Maison-Blanche considère globalement ses partenaires comme des handicaps, non plus comme des atouts. Je parle là des Européens. Est-ce que on voit avec le temps tout de même Donald Trump réaliser peut-être davantage l'importance de l'Europe, ou est-ce qu'on cherche absolument à se rassurer, Hubert Védrine ?
Non, ça n'a pas changé dans son esprit, hein. Trump, d'abord, c'est pas une parenthèse. C'est certainement un mouvement plus long, même après Trump. Il y a eu des signes annonciateurs aux États-Unis comme d'ailleurs en Europe, du décrochage des peuples, hein, par rapport à la mondialisation telle qu'elle a été menée, puis l'intégration européenne. Le raisonnement de Trump est en effet totalement, on va dire, égoïste, enfin, centré sur sa vision, sa base électorale, dans laquelle les évangélistes, d'ailleurs, pèsent très 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 lourd sur le plan des politiques étrangères. Il veut arrêter ce déclin relatif. Il veut engager le grand bras de fer avec la Chine, alors que l'ensemble du système en reste au bras de fer de la guerre froide avec la Russie, même si c'est disproportionné, décalé, etc., parce que c'est leur raison d'être, enfin, c'est leur mode de fonctionnement. Sur la question chinoise, il faut quand même noter que Trump, même les gens qui haïssent Trump et qui seraient contents de le voir en prison après-demain, le soutiennent sur la Chine. Ils considèrent que Kissinger était génial il y a 40 ans, que maintenant ça ne marche plus, donc il y a un certain soutien qui peut continuer après lui. Donc l'Europe, par rapport à ça, à mon avis, pour Trump, c'est rien du tout. C'est même pas son sujet. Donc je pense pas que Trump ait un projet par rapport à nous. Il a un projet par rapport à l'Allemagne. Il veut mettre fin au déséquilibre commercial gigantesque entre les États-Unis et l'Allemagne à cause des voitures. Donc il est concentré là-dessus. Je suis pas sûr qu'il ait un projet au-delà. Et à la limite, si brusquement un jour, il disait après tout, l'OTAN, il y en a ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol de payer 70%, je vais payer maintenant 20%, il serait capable de dire, maintenant débrouillez-vous. Et si par un miracle extraordinaire, quelques Européens disaient chiche, on est capable de relever le défi, il dit, débrouillez-vous les gars. C'est très paradoxal. Mais en tout cas, il n'est pas en train de retrouver un certain intérêt pour l'Europe tel qu'on employait ce mot valise pendant très très longtemps. C'est pas le cas. Il est sur une autre trajectoire.
Pascal Boniface.
Il ne fait pas de différence entre les rivaux et les alliés. C'est quand même paradoxal qu'il ait des meilleures relations avec Kim Jong-un qu'avec Angela Merkel ou Emmanuel Macron depuis quelques temps. Donc c'est effectivement, c'est même pas l'Amérique d'abord, c'est l'Amérique seule. C'est l'Amérique et le reste n'existe pas. Et donc il prend les dossiers sans vision globale, avec seulement pour vision globale, mettre fin aux déficits commerciaux et recréer de l'emploi aux États-Unis. Et là-dessus d'ailleurs, lorsqu'il fait peur aux Européens en disant « attention, je peux quitter l'OTAN » et que, apeurés, effrayés, les Européens disent « Bon, non, ne faites surtout pas ça, on va augmenter nos dépenses militaires et donc on va acheter des armes supplémentaires aux États-Unis », eh bien, il a réussi son pari. Parce que l'objectif de 2% du PIB en matière de défense, eh bien, c'est quelque chose qui a été fixé de façon assez artificielle. Juste parce que les Américains demandent à ce qu'on dépense plus, mais dépenser plus, c'est pour acheter, parce que de nombreux pays européens n'ont pas d'industrie de défense. Et qu'ils sont poussés à acheter américains. On peut dire la même chose dans les pays du Golfe ou dans les pays asiatiques. Donc là-dessus, effectivement, il n'a pas en fait compris, et son entourage lui dit, que l'Alliance Atlantique n'existe pas pour les Européens. Au début, oui, mais même dès le départ, d'ailleurs, dès 49, si les États-Unis créent l'Alliance Atlantique et rompent avec l'isolationnisme, c'est qu'il y a un défi nouveau qui s'oppose à l'Europe, mais qui s'oppose aussi aux États-Unis. Parce qu'ils ne peuvent pas faire, voir, accepter qu'un pays seul compte, mais quelle que soit sa nature politique, et Kissinger l'a écrit, le fait que l'URSS soit communiste permettait une présentation plus facile, mais même si cela n'avait pas été, qu'un pays seul domine le continent eurasiatique était inacceptable pour les États-Unis. Et donc c'est pour cela que Trump ne comprend pas que l'Europe, il a le sentiment que l'Amérique paye pour la défense européenne. Non, l'Amérique bénéficie de l'ensemble des achats européens aux États-Unis.
Alors, sortir de la dépendance, très rapidement, Hubert Védrine, pour l'Europe, il y a une certaine urgence, en guise de conclusion.
Oui, mais j'ai fait une longue liste qui ne peut pas se traiter de façon urgente, puisque j'ai parlé d'une douzaine de puissances, d'entités, etc., par rapport auxquelles il faudrait se rendre moins dépendant. Il y a énormément de réponses. Il y a une réponse mentale, d'abord. Est-ce que c'est ça que veulent les Européens? Est-ce qu'ils veulent, d'une façon ou d'une autre, contribuer à fabriquer une puissance européenne? C'est une puissance pacifique. Est-ce qu'ils sont d'accord? Il n'y a pas de signe de ça pour le moment.
Un appel à une stratégie européenne, en tout cas, c'est cela qu'il faut.
La stratégie découlerait d'une prise de conscience. Il faut commencer par le mental, comme disent les sportifs. Il y a une question mentale. Est-ce que les Européens veulent ça? Ou est-ce qu'ils pensent qu'ils vont continuer dans leur bulle sympa, comme ça, et tant bien que mal, sans avoir à re-rentrer dans l'histoire au sens large? Je ne suis pas sûr. Je serais très heureux. Mais on n'en voit pas tout à fait les signes. Après, le reste peut en découler. Si on arrivait à convaincre les gens, on l'a dit déjà, que si on n'est pas une puissance, on va dépendre de l'ensemble des autres et on va perdre la capacité de maintenir notre civilisation à nous. Après, tout le reste en découle. La stratégie, les moyens, et puis on va affronter les adversaires, etc., etc. Ce déclic initial n'a pas encore eu lieu.
Je suis d'accord avec les 12 défis que Hubert Védrine a listés. Ils sont importants. Et simplement, le problème, c'est que faire grossir la menace russe telle que nous le faisons vient occulter ces autres défis. Parce que, en fait, on se trompe de cible. Au lieu de s'attaquer aux 11 défis, aux 12 défis que Hubert Védrine a cités, on se concentre uniquement sur la menace russe et ça occulte les autres défis sur lesquels, pour beaucoup d'entre eux, nous n'avons pas la même réponse ni les mêmes intérêts que les États-Unis.
Des sujets à débattre. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et président de Hubert Védrine Conseil, et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Son tout dernier ouvrage, Requiem pour le monde occidental, qui vient de paraître aux éditions Erol. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Marc Fichet et Nathalie Laporte. À samedi prochain.